Vous m'entendez bien? Eh bien, bonjour à tous. Je suis content d'être là, de découvrir cette église. On a eu un temps de louange génial. Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé dans la présence de Dieu. Et merci Mathieu, parce que tu as fait la présentation. Ça me fait gagner du temps dans mon message. Mais effectivement, je suis aumônier militaire depuis plus d'un an maintenant. Et j'ai le privilège de pouvoir témoigner de l'évangile en France, à l'étranger. J'ai passé 4 mois et demi superbes dans le désert, au Niger, au Tchad, à témoigner de la foi chrétienne à tous ces jeunes qui s'engagent, et puis aux populations locales aussi, qui sont aussi très croyantes, mais qui ont besoin de ressourcement et d'encouragement. Donc c'est vraiment quelque chose qui enrichit ma lecture et mon étude de la Bible. Alors, j'allais dire ce matin, cet après-midi, on va aborder le thème de la fin des temps. C'est un thème qui m'a été suggéré, et je pense que rien qu'en disant le mot « fin des temps », ça évoque déjà des choses... Merci. Ça évoque déjà des choses chez vous. Je ne sais pas, moi, quand j'entends déjà fin des temps, ça me dit quelque chose. Alors, je ne sais pas si on peut éteindre la lumière pour peut-être voir... J'ai fait un PowerPoint. Quand on dit le mot fin des temps, quand on dit la phrase fin des temps, il y a des choses qui nous viennent à l'esprit spontanément. Et moi, j'ai juste tapé ça sur Google Images, par exemple, pour voir ce qui sort dans notre culture, dans nos médias. Et en général, ce qui sort, c'est une météorite, une attaque nucléaire, les villes dévastées, des choses qui se passent dans les cieux. Je vous fais grâce des images où il y a des zombies ou des histoires comme ça. Mais en gros, c'est ce qui va ressortir. Et c'est caractéristique de notre culture et de la façon dont notre société traite ce sujet de la fin des temps. Et c'est intéressant de voir que la Bible ne traite pas de ce sujet comme le ferait notre culture. Elle le fait d'une autre façon, avec d'autres codes, et c'est intéressant de s'y intéresser, de voir ce qu'elle dit. Et ça, c'est intéressant de le dire en préambule. Par exemple, en Matthieu 24, les disciples posent une question à Jésus sur la fin des temps. Je pense qu'on lui aurait tous posé cette question. Je pense que, honnêtement, on lui aurait tous demandé quand est-ce qu'est la fin des temps. Et vous connaissez cette réponse, il dit, je ne connais ni le jour ni l'heure, il n'y a que le Père qui le sait. Mais ça fait partie des questions que nous, on lui aurait posées. Lui, il ne répond pas à cette question. Ça, c'est quelque chose qui est assez caractéristique de notre culture. Alors, voilà, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, évidemment, Jésus nous parle de ce qui va précéder la fin des temps. Il y aura des faux Christs, des faux prophètes, la guerre entre nations, des famines, des tremblements de terre, la persécution de l'Église, des trahisons, la dislocation de la cellule familiale. Il décrit plein de choses, mais il ne dit pas quand. Il dit juste, voilà comment ça va arriver. Et c'est vrai que j'ai regardé sur Internet, il y en a qui essayent de décrypter quand est-ce que ça va arriver. Il y en a qui font des calculs, ils essaient absolument de savoir. Et c'est des petits malins parce qu'ils disent... Alors Jésus, il nous dit, on ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure, mais peut-être le mois ou l'année. Donc, ils tentent le coup. Mais bon, en général, ils se trompent. Tous ceux qui ont essayé, ils se sont plantés parce que ce n'est pas le propos de Jésus. Alors, vous voyez ce programme-là, c'est pas très glorieux. Des faux prophètes, la guerre, la famine, les tremblements de terre. Pourtant, ce n'est pas la dernière chose que Jésus va dire sur la fin des temps. Ça, c'est une note d'encouragement. Il va dire ceci... À la fin de son discours, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est-à-dire que juste avant la fin, l'évangile va se répandre partout. Et ça, Jésus le dit à la fin de son discours. Alors c'est pas anodin, c'est pas anecdotique, ça veut dire que c'est le plus important. Il va y avoir des temps difficiles, mais le royaume va se répandre dans tout le monde. Et là, la fin viendra. Je trouve que c'est plus encourageant que ce qu'il dit avant. Et c'est vrai que si on additionne aujourd'hui tous les chrétiens qu'il y a dans le monde, aujourd'hui, eh bien il y a plus de chrétiens aujourd'hui que dans toute l'histoire de la chrétienté depuis 2000 ans. Si on additionne, si on fait les calculs, c'est dire qu'il y a beaucoup de conversions. Donc à ceux qui disent « oui, mais c'est la fin des temps, ça y est, ça commence », qu'est-ce que fait Dieu ? Ben, Dieu, il n'est pas au pôle emploi, il est à plein temps. Il y a plein de conversions, il y a plein de gens qui viennent vers lui, on le voit, il travaille vraiment à fond. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Dieu fait de belles choses. Et ironie de l'histoire, à chaque fois qu'il y aura des événements dramatiques dans le monde et la persécution, l'Église va grandir. Ça, c'est l'ironie aussi de l'histoire. Quand l'Église est persécutée, quand on va dans certains pays d'Afrique, mais pas que, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, on voit que quand l'Église est persécutée, boum, elle grandit. Ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. Alors, la fin des temps, quand Jésus nous parle des tremblements de terre, des famines, on sait de quoi il parle. On arrive à mettre ça en lien avec notre actualité. On regarde les infos. La plupart des infos qu'on a, c'est des mauvaises nouvelles en plus. Donc on se dit, bon, ok, j'arrive à voir de quoi il parle. Mais là où c'est plus délicat, c'est de comprendre quand la Bible prend des images poétiques et apocalyptiques pour parler de la fin des temps. Parce que là, c'est un peu plus abstrait de mettre ça en lien avec l'actualité. C'est ça que je vais aborder ce matin. Et j'aimerais vous donner un outil pour bien aborder les figures apocalyptiques de la Bible, les images apocalyptiques, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, vous allez voir. Parce qu'il y a des choses à savoir qui nous permettent de mieux comprendre ce que Dieu veut communiquer comme idée. Et je crois que l'erreur qu'on fait souvent quand on aborde des textes de l'Apocalypse, c'est de chercher trop les détails et de ne pas chercher l'histoire en général. Voilà, c'est comme prendre des jumelles à l'envers. Non seulement vous ne verrez pas mieux, mais ce sera encore plus petit. Il faut commencer par l'idée générale et aller vers le détail. Vous allez voir ensuite que tout est beaucoup plus clair que si on essaie absolument de savoir tous les détails tout de suite. Et on va prendre un cas pratique. On va prendre un chapitre du livre de l'Apocalypse que Dieu m'avait mis à cœur ce matin. J'avais déjà abordé ça une fois, mais là je le fais autrement. C'est un Apocalypse au chapitre 13. Je vais afficher le texte. Et je vais vous poser certaines questions. Il n'y a pas de piège. Pas de piège. Et ensemble, on va décrypter ce passage et voir comment des images apocalyptiques, des images un peu abstraites, sont en fait concrètes dans notre société et dans nos contextes. Donc, en plus, Apocalypse 13, alors là, vous avez vraiment toutes les images réunies, les bêtes, les dragons, les machins, les trucs. Là, vous êtes servi, là. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Vous voyez, hein, je ne vous ai pas menti. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et la fin. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et dernier passage, courage. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Et je m'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme ça? Comment on le met en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui? Vous allez voir, en fait, les idées sont assez simples. Il suffit vraiment de partir de la généralité, et vous allez voir, c'est passionnant. Alors là, c'est vrai qu'on a de tout. On a du diadème, des cornes, des bêtes. Il y a vraiment tout le pack, léopard, lion, ours. Là, c'est la complète œuf, jambon, fromage avec les lardons. Là, c'est difficile de faire mieux. Alors, si je vous posais la question, combien y a de personnages principaux dans ce passage? 2. Il y a qui? Il y a la bête. Alors, il y en a 2 bêtes. Et il y a un dragon. Alors déjà, on va les noter. La bête de la mer, le dragon et la bête de la terre. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce qu'il y a un personnage biblique qui est composé de 3 personnes? Ça, c'est comme à l'école du dimanche. Donc, on peut se dire, il y a Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une coïncidence ? Il y a une trinité et puis on dirait une anti-trinité. Est-ce que c'est une coïncidence ? On va aller un peu plus loin. La bête de la mer, et vous allez voir les parallèles, hein, c'est assez intéressant, elle meurt, elle ressuscite. Elle reçoit autorité, trône et puissance du dragon et elle tente de détruire l'Église. Vous connaissez un personnage qui meurt et qui ressuscite ? Jésus. Jésus, il meurt et ressuscite. Il reçoit autorité, trône et puissance du Père. Et il est venu détruire les œuvres du diable, c'est ce que nous dit l'apôtre Jean. C'est curieux, hein ? On a le même personnage. Il fait les mêmes choses. Alors vous allez voir pourquoi c'est dit comme ça. Prendre un deuxième personnage, le dragon. Il donne son autorité à la première bête. Il est chassé du ciel sur la terre. Et puis il reçoit la louange, adoration des deux autres bêtes. Vous voyez, pour l'instant, c'est simple. Hein. Je m'en tiens vraiment à la simplicité du texte, sans rentrer dans les détails. À qui ça vous ferait penser, ce personnage ? Alors, je dirais Dieu le Père, mais tu vas voir pourquoi je dis ça. L'Esprit aussi, ça pourrait nous faire penser. Il donne son autorité à Jésus. Il élève Jésus de la terre jusqu'au ciel, alors que Satan est chassé. Donc il se croise dans le ciel. C'est chassé-croisé. Et puis il reçoit l'adoration du Fils et de l'Esprit. Donc troisième personnage, sans surprise. La bête de la terre. Elle fait des miracles et des prodiges. Par l'autorité de la première bête. Et elle a l'image et la voix de la première bête. Donc là, le Saint-Esprit fait des miracles et des prodiges par l'autorité de Jésus et reflète l'image et la voix du Fils. Voilà. Déjà, dans les grandes lignes, il y a deux trinités qui font la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire, juste dans la globalité du texte, sans rentrer dans les détails ? C'est-à-dire qu'il y a deux histoires. Il y a deux histoires. Une histoire de Dieu qu'on connaît avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils qui meurt et ressuscite, le Dieu créateur, l'Esprit qui bâtit l'Église. Et on a une autre histoire avec deux bêtes et un dragon qui font la même chose. Sauf qu'ils veulent détruire l'Église, fonder un autre peuple et faire d'autres choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Quand on lit ce genre de texte de l'Apocalypse, on peut se dire « Ouh là là, c'est un peu effrayant, les bêtes et le dragon qui fait tout ça. » On se dit « Tiens, ça a tendance plutôt à faire peur, toutes ces choses. Ils vont aller derrière les saints, ils vont vouloir les tuer, hein, ils font des miracles, ils font beaucoup de choses. » Mais ce que ce texte nous dit, c'est que l'ennemi ne fait qu'une copie de ce que fait Dieu. Il ne fait pas mieux. Parce qu'il ne peut pas faire mieux. Il n'est pas créatif, il n'invente rien. Il tente de copier une histoire qui est déjà faite, parce qu'il sait que c'est une histoire qui marche. Et ce que nous dit ce texte, c'est comme si Dieu nous disait « Je connais les plans de l'ennemi, je sais comment il marche. En fait, il fait comme moi en moins bien. Quand il fait des miracles, quand il raconte des histoires, il veut faire comme moi, mais il n'y arrive pas. » C'est ça que ça veut dire ce texte. Il le fait en moins bien. Surtout que nous, on connaît la fin de l'histoire. Le dragon, on sait qu'il finit mal, très mal, avec le faux prophète dans les temps de feu. Voilà. Et cette lecture un peu parodique du texte, d'une histoire qui est parodiée, vous la retrouvez tout au long du livre de l'Apocalypse. Et si vous gardez ça à l'esprit, vous pourrez interpréter bon nombre de passages apocalyptiques avec des figures un petit peu bizarres, avec ça en tête. Et plus vous allez comprendre l'histoire globale, qui a une histoire du salut et une histoire du salut copiée chez l'ennemi, plus vous allez comprendre ensuite les détails qui sont décrits après. Et pour preuve, là on a dit qu'il y a une trinité qui est copiée, hein, l'ennemi fait comme Dieu. Mais de façon plus globale, c'est ce qui se passe dans toute l'histoire du salut et toute l'histoire de l'ennemi. Je vais prendre des exemples. Il y a le peuple adorateur de la bête et il y a l'équivalent chez Dieu. Il y a le peuple de Dieu. Vous êtes d'accord ? Si je vous dis à la marque de la bête, c'est quoi l'équivalent chez Dieu ? C'est le sceau de l'esprit. Si je vous dis, il y a Babylone, la prostituée, quelle est la ville de Dieu ? Jérusalem, l'épouse sainte. Vous voyez, tout est copié en fait. Tout est copié dans l'histoire du salut. L'ennemi copie systématiquement ce que Dieu va mettre en place. Il y a la liturgie qui est semblable à la bête, mais ça vient de Dieu, qui est semblable à Dieu, qu'on retrouve dans l'Apocalypse. pour ça que je dis qu'il ne fait pas mieux. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un agneau avec deux cornes. Et il y a l'agneau de Dieu. Et c'est intéressant parce que l'agneau avec deux cornes, ça veut dire que c'est pas loin d'être un agneau. Mais c'est pas un agneau. Vous voyez, il essaye de brouiller un peu les pistes. L'antéchrist qui fédère toute tribu, langue et nation, peuple, Dieu, c'est la même chose. Une proclamation de blasphème de la part des bêtes qui copie la proclamation apostolique. Et puis, un autre détail qui est intéressant, c'est que la bête agit pendant 42 mois. Et ça fait combien 42 mois en année? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est la durée du ministère terrestre de Jésus. Toute l'histoire de l'Apocalypse est copiée. Toute l'histoire du salut est copiée par l'ennemi. Donc ce texte n'est pas fait pour nous dire « Ouh là là, attention, regardez tout ce que fait l'ennemi, c'est effrayant, il y a des bêtes. » Non, c'est pour dire « Non, il copie et il n'y arrive pas. » C'est ça que ça veut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ennemi, il essaye pas trop mal de copier ce que fait Dieu. Il y a des gens qui vont s'y tromper. Il y a des gens qui vont dire « Tiens, c'est un agneau avec deux cornes, c'est presque comme un agneau. » C'est un peu la même odeur, c'est un peu le même visuel, mais c'est pas la même chose. C'est quand même pas la même chose, mais c'est fait pour brouiller les pistes. J'étais dans le métro vendredi, quand je redescendais, et il y avait des mormons, ils avaient un petit badge, Église de Jésus-Christ, et c'est un des derniers jours. Bah, je me dis, n'importe qui se dirait, c'est des chrétiens. Il y a bien Jésus-Christ, il y a bien l'idée que ce sont des saints, voilà, qui se présentent comme ça, mais non, c'est pas l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, ça a la même apparence. C'est des gens qui sont gentils, qui vous abordent, qui vous parlent d'un message. Oui, Jésus est mort en croix. Oui, mais c'est pas la même histoire. Mais c'est presque pareil. Et c'est pour ça que en Matthieu 24, quand les disciples ils viennent voir Jésus, ils lui disent « C'est quand la fin des temps ?» Qu'est-ce que répond Jésus? Il dit « Attention que personne ne vous séduise. » Il répond toujours à côté pour eux. « C'est quand la fin des temps ?» C'est maintenant, c'est demain, attention que personne ne vous séduise. C'est la première chose qu'il dit. Il va le répéter deux fois dans le chapitre. Et c'est qu'à la fin qu'il dit, en fait, vous ne le saurez pas. Et moi non plus. Et ça, il le dit. Donc ça, c'est les deux histoires qui sont copiées. Alors, oups, hop. Comment ça marche? Bon, voilà, en gros, à gauche, vous avez vraiment le peuple, hein, la fausse trinité, et puis toute l'histoire qui est copiée. Hein, le feu qui tombe du ciel comme Élie... voilà, il y a tout qui est copié, puis l'histoire de Dieu, évidemment. Voilà. Et quand on demande à Jésus c'est quand la fin des temps, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la première chose qu'il dit. Et ça rejoint le chapitre qu'on vient de voir. Attention, il y a de la séduction, il y a des bêtes qui viennent, ils vont faire un peu comme Dieu, ils vont essayer de refaire l'histoire. Mais c'est de la séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On a vu un agneau avec deux cornes, un agneau sans cornes. Il y a une ville sainte, il y a une ville prostituée, il y a deux peuples, il y a deux adorations, il y a deux liturgies. Donc il y a des gens qui se trompent. Et puis il va le répéter. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc vous voyez, quand on demande à Jésus c'est quand la fin des temps, il dit attention, ne soyez pas séduits. Et c'est un des enjeux majeurs du sujet de la fin des temps que l'Apocalypse traite, notamment dans le chapitre 13, mais plus globalement dans l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Ça, c'est une chose à poser. Alors vous voyez, hein, je ne suis pas rentré trop dans les détails de ce chapitre, et déjà on comprend l'idée générale. On déblaye comme ça, on se dit, bon ben voilà, si on comprend qu'il y a une parodie, on va essayer de voir les équivalents chez Dieu et chez l'ennemi pour comprendre qu'il y a deux histoires qui se dessinent dans ce monde et qu'il y a deux peuples. Il y a ceux qui sont avec Dieu, il y a ceux qui sont contre Dieu. Et je vais juste aller un petit peu plus en détail pour le début du passage, et je finirai par ce passage-là. Au début du passage, il est dit « La bête de la mer est une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. » Là, on va un peu plus dans le détail. Je ne vais pas aborder tout le passage, ce serait trop long, vous allez vous endormir. Mais juste pour vous montrer quelle est l'idée derrière ce type de symbole-là. Et alors là, c'est pratique parce que c'est le prophète Daniel qui aborde ça dans son chapitre 7 de son livre, où il parle du lion, de l'ours, du léopard. en parlant de certains empires qui sont passés dans l'histoire. Parce que les empires étaient symbolisés par des animaux, et on sait dans l'histoire, les historiens à l'époque, et même aujourd'hui, attribuer à certains peuples des animaux. C'est encore le cas aujourd'hui pour certaines nations. Et vous allez voir ce qu'on en retire comme enseignement. Donc cette bête, on sait que le lion représente l'empire de Babylone, l'ours l'empire Mède, les Perses c'est le léopard, et puis l'empire grec plus tard. Donc ça recouvre chez Daniel de moins 600 à moins 300. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'en fait, ces bêtes qu'on voit agir, ce sont des empires. Ce sont des gouvernements, des armées, ce sont des empires qui agissent dans le monde pour faire le mal, puisqu'on les attribue à des nations, que Daniel attribuera dans son livre à des nations qui existent de son temps déjà avant et puis après. Ce sont des empires passés. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas sur-spiritualiser les choses. Il y a eu des empires dans l'histoire qui se sont succédés, des empires qui se font, qui se défont. Voilà. Les hommes ont toujours voulu contrôler Dieu, prendre la part de Dieu dans cette histoire. Et là, dans ce passage, on voit qu'on nous parle de vieux empires déjà qui sont passés. L'Apocalypse ne parle pas de nations qui vont venir après. Elle parle déjà de ce qui s'est passé avant pour vous dire, regardez l'histoire. Ces nations sont là, elles sont passées, elles se font, elles se défont. Et ça se vérifie par les détails, parce que sur ces bêtes, il est dit qu'il y a des diadèmes, ce qui représente le pouvoir royal. Il y a des cornes, ça représente la puissance militaire, hein, dans ce symbole apocalyptique. Et ça fait un empire. Ça fait un empire. La puissance militaire, un gouvernement, ça fait des empires qu'on voit avec cette bête, mi-léopard, mi-lion, mi-ours. C'est une succession d'empires connus du livre de Daniel qui perdurent dans l'histoire et qui persécutent les croyants. Donc vous voyez dans ce passage, il y a deux histoires, il y a l'histoire de Dieu et il y a l'histoire de l'ennemi. Et dans l'histoire de l'ennemi, la Bible nous dit, l'Apocalypse nous dit, il y a des empires qui se sont succédés, qui ont essayé de vaincre les croyants, de vaincre les juifs, de vaincre les chrétiens, mais ils n'y sont pas arrivés. Et l'ennemi a essayé de vaincre le peuple de Dieu, il n'y est pas arrivé. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que ces empires, c'est vieux. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain, c'est quelque chose qui est déjà passé. Ça veut dire que la fin des temps est quelque chose qui a commencé il y a quelques années déjà. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive le matin. Ce n'est pas la gastro du dernier moment. Vous avez le temps de l'avoir venir. Et preuve en est, c'est l'apôtre Jean qui nous dit, déjà il y a 2000 ans, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure, il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, ça a commencé la fin des temps. C'est la dernière heure. Il n'a pas dit la dernière année, la dernière. Il a dit c'est la dernière heure, ça y est, le Christ est venu, il est reparti, les antéchrists sont là, c'est la fin des temps, c'est la dernière heure. Il va le répéter, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue, Jésus leur a dit en Matthieu 24, il va venir, et ça, et là ce sera la fin, et qui est maintenant déjà dans le monde. Ça veut dire que dans la compréhension de la fin des temps, dans notre culture, la fin des temps, c'est une période courte, mais dans la Bible, c'est une période relativement longue. Et ça, c'est important de le prendre en compte pour comprendre dans ces images apocalyptiques que ce sont des empires qui se succèdent, et que Dieu nous donne une image grande de l'histoire pour dire, voilà, tous ces empires se sont succédés, et ils ont tous échoué. Alors, que retenir de tout ça ? Que retenir de tout ça ? Comme j'ai dit, il y a deux histoires qui se dessinent dans le livre de l'Apocalypse. Il y a l'histoire de Dieu, avec une proclamation apostolique, avec un Christ qui meurt et qui ressuscite, un esprit qui bâtit son Église, et puis il y a les bêtes et le dragon qui vont essayer de parodier ça. Et ça, on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de faire des prodiges et des miracles pour séduire les gens, pour les détourner. Et Dieu nous dit, je suis au courant de cette histoire, je sais, c'est pas nouveau. Ça fait au moins 2000 ans qu'il y a les antéchrists qui sont là. Les faux prophètes, c'est encore plus antérieur à ça. Je connais comment ils fonctionnent, je connais l'histoire. Ils veulent me parodier, mais c'est beaucoup moins bien. Ils n'arrivent pas à la cheville de Dieu. Et ce que Dieu nous dit dans ce passage, c'est nous, on n'est pas la parodie. Nous, on écrit l'histoire, la vraie histoire, celle qui compte. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui disent « Oulala, non, on ne touche pas au miracle et au prodige parce que le diable le fait et ça pourrait nous perdre. » Non, non, le diable, il copie ce que Dieu fait. Donc, à plus forte raison, faisons des signes et des prodiges pour témoigner de la véracité de l'évangile. Sinon, ça, l'ennemi, là, il aura gagné. Mais non, on ne peut pas dire de ne pas faire de miracle sous prétexte que l'ennemi le fait, puisqu'on sait par ce passage qu'en fait, il ne fait que parodier l'histoire de Dieu. Et ça, c'est important de le voir. On est la vraie histoire. Et cette histoire de l'Apocalypse, c'est une vulgaire parodie de l'histoire du salut qui est glorieuse et dont nous prenons notre part tous les jours. C'est génial de voir cette histoire dans laquelle on est ancré depuis des siècles. Et puis, une autre chose que dit ce passage, et ça je l'ai dit, c'est que les empires se sont succédés pour tenter de détruire le peuple de Dieu. Ce texte nous dit qu'ils ont tous échoué. Il n'y en a pas un qui a réussi à le faire. Ça veut dire que l'Église, elle ne sera jamais détruite. L'Église ne sera jamais détruite. Il peut faire ses bêtes et ses dragons et compagnie, ça ne marchera pas. Il peut prendre des grands empires, prendre les Babyloniens, les Grecs, tout ce qui, ça ne marchera pas. Il a toujours échoué. L'Église a toujours gagné. C'est glorieux. Et c'est un message d'encouragement, ce texte pour nous. C'est un message d'encouragement. Dieu nous dit, je vois tout ce que fait l'ennemi, je vois ses plans, je connais par cœur. Il n'a rien créé, je le vois. Tous les empires se sont levés. Depuis la tour de Babel, ils ont essayé de se confronter à moi. Et ils ont créé des choses, ils ont créé des structures, ça ne marche pas. Donc ce passage, il nous pousse à agir, à sortir dans les rues, à témoigner de l'évangile, à faire des miracles, à dire ça c'est la vraie histoire de Dieu. C'est pas la parodie, c'est l'original. C'est pas de la contrefaçon. C'est la vraie histoire de Dieu. Vous vous rendez compte qu'aucun empire dans l'histoire n'a arrêté les croyants. Personne ne vous arrêtera. Ils pourront essayer, mais l'Église, elle perdurera. Aucun empire n'arrêtera l'Église. Je trouve que c'est glorieux de le savoir. Aucun empire n'y arrivera. Ils peuvent essayer de montrer les dents, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, écrivons l'histoire. Rien ne nous arrêtera. Faisons des miracles, sachant que la peur est dans l'autre camp. La peur est dans l'autre camp. Tout ce cinéma qui nous fait l'ennemi, c'est parce qu'il est dans la déroute, et c'est parce qu'il est apeuré. C'est pour ça qu'il essaie de mettre une histoire en place, mais il a déjà perdu. On sait où il finit. Le message, c'est faisons les miracles, proclamons l'évangile. C'est la vraie histoire, c'est pas la parodie. Et là, ça va trancher dans le vrai, dans la vérité. Sachant que Dieu donne à l'Église la puissance de son esprit, et puis un Jésus qui continue de nous accompagner dans cette voie-là, ça c'est extraordinaire. Alors je terminerai en disant que quand le rideau tombera à la fin de l'histoire, on sera debout et on sera gagnant. C'est ça ce message. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu écris une histoire merveilleuse, une histoire glorieuse. L'ennemi essaye de nous intimider, il essaye de se montrer avec ses muscles, mais ce n'est qu'une vulgaire parodie d'une histoire qui est merveilleuse et qui ne t'arrive pas à la cheville, Seigneur. C'est toi qui es glorieuse, la gloire est vers toi, la proclamation apostolique, tu bâtis l'Église, ton esprit, la croix, Seigneur, tout ça c'est la vraie histoire, on se l'approprie, on en est fier de ces valeurs, de ce que tu as fait pour nous. Ça c'est glorieux, on veut se le rappeler, Seigneur. Et on veut que tu mettes en nous, par ton esprit, la puissance du témoignage pour contrecarrer les plans de l'ennemi, pour dire voilà ce qu'est l'histoire de Dieu pour les gens, Seigneur. On prie qu'il y ait un impact, que les gens sentent la différence entre le faux et le vrai. Seigneur, tu as toujours tranché entre le faux et le vrai. On prie qu'il y ait vraiment une onction, une libération à ce niveau-là, que les gens soient convaincus de la vérité, qu'ils ne soient pas trompés. Qu'ils ne soient pas trompés par des prodiges et des signes qui ne sont pas de toi, Seigneur. Alors donne-nous à plus forte raison ta puissance pour dire la véracité de cette histoire qui est absolument merveilleuse. Seigneur, tout ça c'est pour ta gloire, c'est parce que tu es grand, tu es tellement merveilleux. Et on te remercie parce que ton histoire, c'est la plus belle, c'est là où tu nous as placés. Aucun empire ne nous arrêtera, rien dans l'histoire ne t'a arrêté, Seigneur, rien ne nous arrêtera dans la proclamation de ta parole. Même s'il y a de la persécution, même s'il y a de l'opposition, Seigneur, l'histoire nous l'a dit, on est glorieux avec toi. Sois béni, Jésus. Amen.